Ça commence par moi.
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 Ça commence par nous.
Bonjour à tous, bienvenue dans Ça commence par nous sur Rage. Ça commence par nous, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est l'émission qui va vous aider à changer le monde un petit peu tous les jours. Et oui, ici on vous propose des actions simples et concrètes, quelles que soient vos compétences, vos moyens et vos disponibilités. Notre promesse, c'est qu'à la fin de l'émission, vous aurez tout un tas de solutions à mettre en place tout de suite et sans contrainte dans votre quotidien. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet fondamental pour construire le monde de demain, la démocratie au quotidien. D'autant que dans le domaine, la crise elle s'est profondément et durablement installée. Méfiance envers le système démocratique, défiance envers les professionnels de la politique. Le système français est très loin de faire l'unanimité et on constate un désengagement massif de la population quant à ces questions, avec à chaque nouvelle élection une abstention au record. C'est bien simple, selon la 9e vague du baromètre annuel de la confiance politique de Cevipof de Sciences Po, les Français jugent le monde politique le plus éloigné que jamais de leurs préoccupations. Quelques chiffres pour enfoncer le clou. 89% des Français pensent que les hommes et les femmes politiques ne se préoccupent pas des attentes de leurs attentes. 82% sont convaincus que les promesses ne seront pas tenues. 75% pensent que le personnel politique est corrompu. Ça fait mal. Et oui, qu'on le veuille ou non, la crise démocratique en France est bien présente. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Et si je vous disais que des solutions étaient en train d'émerger pour donner les outils pour participer à notre démocratie au quotidien ? Et si je vous disais qu'il existe aujourd'hui des solutions pour nous permettre de faire bouger les choses à notre échelle. C'est justement ce que nous allons discuter pendant cette heure d'émission avec nos invités, tous porteurs de projets innovants dans le domaine. Harry Brodache nous présentera, lui, le budget participatif de Paris. Christian Proust nous parlera de son livre, Le guide pour oser s'impliquer en politique. Aurélie Mussmann nous fera découvrir l'application Flucity. Et enfin, Pierre Lucier nous dira tout sur le jour de la Terre. Sur le plateau avec moi, il y a Charles, un nouveau venu de l'équipe des Dénis, pour nous parler de zéro déchet. Mélanie de OneArt, que vous connaissez bien, qui nous partagera tout à l'heure son plan. Et allez, on y va, c'est parti pour cette nouvelle émission de Ça commence par nous.
Ça commence par moi.
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 Ça commence par nous.
Et aujourd'hui, on vous explique comment participer à la vie démocratique au quotidien. Nous accueillons tout de suite Harry Brodache, qui est le responsable du budget participatif de Paris. Bonjour.
Bonjour.
Alors, est-ce que vous pouvez commencer, s'il vous plaît, par nous expliquer qu'est-ce que c'est le budget participatif de Paris ?
Le slogan du budget participatif de la ville de Paris est assez simple, vous proposez et vous décidez. Quand on dit vous, et c'est une des innovations démocratiques qui est décidée par la maire de Paris, c'est tout résident parisien, sans condition d'âge et de nationalité. Donc une réponse au constat que vous faisiez aussi en forme d'élargissement de la notion de citoyenneté qui peut être qui est innovante et qui est assez intéressante. Vous proposez, vous décidez, ça veut dire que chaque année, les Parisiens et les Parisiennes sont appelés à déposer des projets qui vont être analysés par la ville de Paris et s'ils sont jugés recevables, c'est-à-dire légaux et faisables, ils vont être soumis au vote. Et là, c'est la deuxième phase, vous décidez, c'est-à-dire que lors du vote, les Parisiens vont décider des projets qu'ils souhaitent voir mis en œuvre. La ville de Paris met à disposition 100 millions d'euros chaque année, c'est 5% de son budget d'investissement, ça représente à peu près 45 euros par habitant. Et par an, donc quelque part, ce que la ville propose, c'est dites-nous ce que vous voulez faire de vos impôts locaux. Donc c'est une manière assez innovante et assez nouvelle de mettre le citoyen au cœur de la décision politique dès lors qu'il s'agit de mettre en œuvre des projets. Concrètement, cette année, on a reçu 1924 projets qu'on est en train d'analyser. L'année dernière, on a mis au vote 484 projets qui en regroupaient 900. Excusez-moi avec tous ces chiffres.
Non, mais
ce qu'on peut retenir, c'est que 30% des projets déposés sont soumis au vote. En tout cas, si je me base sur les données de l'an dernier. Et que chaque année, on a nos 100 millions d'euros de dépensés, avec en fait 23 budgets participatifs à Paris, 21 budgets participatifs géographiques, un budget participatif tout Paris, 20 budgets participatifs, donc un dans chaque arrondissement, un budget participatif des écoles et collèges, pour mobiliser aussi les futurs citoyens, c'est le souhait de la maire de Paris, qui est doté de 10 millions d'euros, et un budget participatif qu'on mène pour la deuxième année consécutive avec les bailleurs sociaux, donc sur tout le parc de logements sociaux, qui ne relève pas directement département de nos compétences, où les habitants sont invités à proposer des solutions pour leur résidence.
C'est génial, Harry, c'est très concret. On rentre effectivement avec plein de chiffres pour commencer. Moi, ce budget participatif, il m'a conquis dès le début. J'ai bien aimé la plateforme Internet. J'ai trouvé qu'effectivement, le fait de géolocaliser les projets, d'identifier des thématiques phares, ça me parlait. J'en parle à plein de gens autour de moi, ils ne connaissent pas encore. Depuis combien de temps ça existe, ce budget participatif ?
Alors, ça existe depuis 2014. En 2014, on était sur un format un petit peu dégradé parce que c'était la première année. Donc, c'était la ville qui proposait des projets et les Parisiennes et les Parisiens qui décidaient de leur projet préféré. Depuis 2015, on est en vitesse de croisière, c'est-à-dire que chaque année, les Parisiennes et les Parisiens ont un mois pour déposer les projets et un mois pour voter en septembre.
Alors, très concrètement, comment ils font pour les proposer ces projets ? Comment fait pour décider de quel projet sera mis en place et quel suivi, de manière très pragmatique.
Très pragmatique. Pour déposer les projets, il y a une plateforme et un site internet qui s'appelle budgetparticipatif.paris sur lequel on regroupe toutes les informations sur les projets déposés et sur les projets actuellement mis en œuvre. Je vais y revenir. Donc il y a une plateforme, mais il y a aussi beaucoup de rencontres. Cette année, au mois de janvier, avec les mairies d'arrondissement, on a animé plus de 150 réunions d'information dans la ville, puisqu'effectivement, il faut continuer à faire connaître et continuer à aller vers les citoyens pour leur présenter la démarche. Donc ça, c'est pour ce qui est du dépôt de projet, plateforme en ligne. Pour le vote, on a à peu près 180 points de vote physiques dans la ville.
Avec une urne,
dans l'espace public, des triporteurs, donc des points de vote mobiles aussi, qui vont se déplacer sur les marchés, à la sortie des écoles, etc., etc. Et puis, on a là aussi une plateforme en ligne pour voter. On pense vraiment que c'est la cohabitation des deux formats papier et numérique qui permet de toucher le plus de monde. Alors, c'est jamais assez, mais néanmoins, la participation progresse. On avait 40 000 votants sur la première édition 2015. On est à 98 000 cette année, ce qui représente une progression de 6% entre 2016 et 2017. Voilà, il faut qu'on continue à faire connaître la démarche. On a des bons indicateurs sur le fait que sa notoriété augmente. Et notre meilleur support pour la notoriété, c'est de sortir des projets. Et de montrer qu'ils sont issus du budget participatif.
Donc, et justement, alors, comment les montrent ces projets ?
700 réalisations depuis le lancement, qui vont de l'arceau vélo jusqu'à la rénovation d'un espace d'insertion pour des personnes qui sont sans abri. On les montre avec des petits logos au budget participatif fait avec les Parisiens, mais surtout on les sort parce que c'est des projets complexes. Il y a des projets classiques, rénover une école, un conservatoire ou d'autres formes d'équipement public, poser des végétaux dans la rue. Et puis il y a des projets beaucoup plus innovants qui font un petit peu bouger les lignes. Hier soir, il y avait le débriefing de la Nuit de la Solidarité qu'a organisé la ville de Paris pour recenser les personnes sans abri et leur apporter un temps d'écoute. Et la maire a annoncé qu'on allait concrétiser un des projets sur lesquels on a travaillé avec les porteurs de projets pendant plus de 6 mois, qui est le projet des abris pour les sans-abri. Donc la mise en place d'abris dans l'espace public pour les sans-abri. Donc là, typiquement, les Parisiens ont fait un petit peu bouger, ont amené de nouvelles solutions, en tout cas à la ville, qui n'étaient pas forcément identifiées avant et sur lesquelles on a travaillé pour les concrétiser.
Et pour cette année 2018, on en est où et quelles sont les prochaines étapes où les Parisiens vont pouvoir s'impliquer ?
La prochaine étape, grand public, c'est le vote en septembre prochain. Donc, c'est pas tout de suite, mais c'est... voilà, donc là, aujourd'hui, on peut faire deux choses. Trois choses. On peut réfléchir aux projets qu'on aimerait déposer en 2019, les faire mûrir dans son esprit ou avec ses collègues ou ses voisins. On peut préparer le vote pour septembre, ça sera du 7 au 23 septembre 2018. Et puis, on peut participer à toutes nos réalisations, puisque évidemment on essaye d'y impliquer les Parisiens. Aujourd'hui, Porte de Montreuil, on plante une forêt dite open source avec Boom Forest. C'est un projet issu du budget participatif voté dans le cadre de Plus de Nature en Ville. On vient de lancer un appel à projet pour installer des ruchers dans la ville, toujours au titre du budget participatif. À partir du 16 avril, je crois, vous pourrez aller voir dans le 15e l'artiste Dacruz qui va peindre une fresque de street art sur tout un pignon d'immeuble social. Et puis, on vient de donner aussi les résultats. Donc maintenant, vous irez y faire vos courses avec une grande qualité d'accueil. 22 commerçants qui ont été soutenus dans les quartiers populaires par une enveloppe de 200 000 euros pour les aider à transformer leur commerce et améliorer l'accueil qui peut être proposé aux clientes et aux clients.
Merci beaucoup, Harry. C'est du hyper concret, c'est du quotidien, c'est du participatif, c'est exactement ce qu'on voulait lancer comme onde de dynamisme et de positif concernant ce sujet. Je vous remercie encore une fois. Nous, on se retrouve tout à l'heure pour les débriefs en fin d'émission. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, je vous invite à vous rendre sur le site, vous l'avez donné tout à l'heure, c'est budgetparticipatiftoutattaché.paris.fr. Et nous, évidemment, on vous donnera bien toutes les infos sur le groupe Facebook de Ça commence par nous. Allez, tout de suite, on se fait une petite pause musicale.
Tout ira bien, tout ira bien. Au creux des tours, vers l'ombre de la cité. Au creux des tours, vers l'ombre de la cité. S'allonger seul.
Ça commence par nous. Ici, on change le monde tous les jours un petit peu plus. C'est du simple, c'est du positif, c'est du concret. C'est tous les samedis de 13h à 14h sur Rage. Et aujourd'hui, on vous explique comment participer à la vie démocratique au quotidien. Tout de suite, nous sommes avec Christian Proust qui va nous présenter son guide pour oser s'impliquer en politique.
Ça commence par nous.
Bonjour Christian. Aujourd'hui, nous sommes dans une émission où on parle de démocratie à l'échelle du citoyen au quotidien. Et vous, ça tombe bien, vous avez travaillé pendant longtemps dans les rouages de la vie politique locale, c'est ça ?
Oui, bonjour Julien. Effectivement, pendant plus d'une vingtaine d'années, j'ai travaillé dans des collectivités territoriales et j'ai terminé il y a 5 ans, puisque je suis désormais retraité, en tant que directeur général adjoint des services d'un conseil général, un conseil départemental, comme on dit aujourd'hui, et en l'occurrence celui des Deux-Sèvres.
Et vous vous êtes même présenté à une élection, si je ne dis pas de bêtises.
Et c'est tout à fait vrai, même à deux, puisque je me suis présenté d'une part au municipal de 2014 et d'autre part au départemental de 2015. Mais dans les deux cas, je n'ai pas été élu et pourtant je n'ai aucun regret parce que ça s'est vraiment très très bien passé. Nous avons suscité un vif intérêt à partir des idées assez nouvelles que nous proposions.
Et vous, fort de cette expérience, hein, c'est là d'où je venais en venir, vous avez sorti un guide pratique pour oser s'impliquer dans la vie politique locale. Pourquoi ?
Alors, effectivement, j'ai fait converger en quelque sorte à la fois ce que moi j'ai appris à travers ma carrière professionnelle et puis mon expérience politique et puis surtout, je ne sais pas comment ça se passe pour vous, mais pour moi les soirées électorales sont de vrais cauchemars. Je crois que notre démocratie est vraiment abîmée. Nos députés, les derniers, ont été élus par 20 à 25% des voix de leurs électeurs. Il n'y a donc pas de quoi pavoiser. Et je me suis dit vraiment... Quelles sont les principales causes ? Alors, hormis les problèmes économiques, bien évidemment, je crois que l'une des causes principales, ce sont les pratiques politiques qui sont de plus en plus contestées, voire détestées. Les problèmes de cumul de mandats, de consanguinité politique, comme je dis d'habitude. Les problèmes de non-transparence, de clivage stérile, de sectarisme, je ne vous parle même pas de corruption. Toutes ces questions-là... heurtent totalement et de plus en plus les Français qui ne se déplacent plus pour aller voter, ce qui me semble vraiment être un problème grave. Or pourtant, je ne crois pas que les pratiques politiques puissent véritablement changer par le haut, parce qu'on ne scie pas la branche sur laquelle on est assis. Je crois qu'elle ne peut changer que par le bas, c'est-à-dire qu'il faut que les citoyens s'engagent modifier véritablement la culture politique de base.
C'est ça, et du coup, vous, effectivement, ce livre, il est né, hein, vous venez de le dire, d'une certaine révolte, et à la fois, il s'appuie aussi sur plein d'exemples concrets qui, déjà, actuellement, en France, proposent de nouvelles manières de réinventer la politique, non ?
Alors, effectivement, pour donner envie, pour montrer que la politique locale, ça peut vraiment changer la vie, je suis allé voir un certain nombre d'expériences qui étaient au départ des utopies et puis qui sont devenues des réalités. Saillant, la commune de Saillant dans la Drôme, ils sont en train de réinventer la démocratie. Ils ont complètement bouleversé les cartes en s'appuyant sur la participation de la population au quotidien, en partageant le pouvoir, en étant dans la transparence permanente, en organisant le contrôle même des engagements qu'ils ont pris pour être certains de pouvoir les mettre en place. Ça, c'est un exemple. Ensuite, je suis allé voir d'autres utopies. Est-ce qu'il est possible d'alimenter nos enfants dans les cantines scolaires par du bio, par de la nourriture, des produits de qualité et produits dans un environnement assez proche ?
Et alors ?
Deux expériences fantastiques, l'expérience de Saint-Étienne, l'expérience de Niort, où avec des organisations administratives totalement différentes, voire même opposées, l'un à parier sur le privé, l'autre à parier sur le public, eh ben ils arrivent à des résultats stupéfiants.
Je me permets de vous demander du coup, si vous aviez, vous Christian, un conseil pour les personnes qui sont en train de nous écouter et qui se disent « mais attends, si ça marche, moi, par quel bout je commence à tirer la bobine de mon engagement démocratique du quotidien ?» Vous leur donneriez à ces gens-là ?
Ah, moi je leur dirais d'abord tous les 6 ans, allez voter, parce que c'est vraiment trop important que d'avoir une démocratie qui soit vivante. La deuxième chose, c'est de répondre aux sollicitations quand il en existe. Vous allez, au cours de votre émission, vous allez parler d'autres expériences. Vous avez des municipalités qui sollicitent les citoyens. Elles sont malheureusement pas très nombreuses. Eh bien, il faut pouvoir répondre à ces sollicitations.
Pour les encourager, plus des personnes vont s'intéresser à ça et vont participer, et plus d'autres villes vont vouloir répliquer le même système.
Oui, oui, absolument, mais quand même, je voudrais insister sur le fait que je crois que l'essentiel, c'est quand même d'oser s'engager soi-même dans la vie politique municipale. Et ça, c'est le rendez-vous, c'est pour les prochaines municipales. Donc, comment des citoyens peuvent avoir cette ambition de se présenter à des prochaines élections, c'est tout le rôle de mon bouquin, c'est d'essayer de leur donner cette envie-là.
Et voilà, vous donnez envie à toutes les personnes qui nous écoutent, effectivement. Je redonne le titre de votre livre, hein, c'est le guide pratique pour oser s'impliquer dans la vie politique locale. Moi, ma toute dernière question, Christian, pour vous, c'est ce livre, j'imagine qu'effectivement, il suscite le débat, il suscite aussi l'intérêt. Quelle suite vous lui donnez maintenant ?
Oh, la suite, eh bien, c'est mon propre engagement politique, en fait, qui consiste à proposer un Tour de France citoyen, donc à des associations, à des collectivités ou même à des groupes de citoyens plus informels, d'organiser des soirées autour de mon livre et autour de la démocratie locale réinventée. Alors sur mon site, donc, il suffit de taper sur un moteur de recherche Christian Proust. Citoyen.
Et nous, on redonnera bien évidemment toutes ces informations sur le groupe Facebook de notre émission. Ça commence par nous. Je vous remercie vivement, Christian, pour votre intervention.
Merci, Julien.
Allez, tout de suite, on se fait un nouveau break musical et on revient juste après avec Charles Dédény et son focus zéro déchet.
Ta peau sur la mienne et ma peau sur la tienne au détour. Ta bouche bohémienne sur ma bouche bohémienne, c'est l'amour, c'est le paradis. Dieu que je me sens bien dans le creux de tes reins, quand l'encre de tes mains douces dessine ton corps sur le mien. Dieu que je me sens bien lové entre tes seins, quand l'encre de mes mains douces dessine mon corps sur le tien. Madrilène sous mes mains magiciennes au velours de la mélodie. Ton lingot de lune sous mon lingot de miel, c'est le jour qui chante la nuit. Dieu que je me sens bien dans le creux de tes reins, quand l'encre de tes mains pousse, dessine ton corps sur le mien. Dieu que je me sens bien lové entre tes seins, quand l'encre de mes mains dessine mon corps sur le tien, ton corps sur le mien, mon corps sur le tien, ton corps sur le mien, mon corps sur le mien. Ta peau tout autour de moi, ma peau tout autour de toi. Ta peau tout autour de moi, ma peau tout autour de toi. Ta peau tout autour de moi, ma peau tout autour de toi. Ta peau tout autour de moi, ma peau tout autour de toi. Dieu que je me sens bien dans le creux de tes reins, quand l'encre de tes mains pousse, dessine ton corps sur le mien. Dieu que je me sens bien lové entre tes seins, quand l'encre de mes mains pousse, dessine mon corps sur le tien. Dieu que je me sens bien dans le creux de tes reins, quand l'encre de tes mains pousse, dessine ton corps sur le mien. Dieu que je me sens bien lové entre tes seins, quand l'encre de mes mains douces dessine mon corps sur le tien. Ton corps sur le mien, mon corps sur le tien, ton corps sur le mien, mon corps sur le tien. Ta peau tout autour de moi, ma peau tout autour de toi. Ta peau tout autour de moi, ma peau tout autour de toi. Ta peau tout autour de moi, ma peau tout autour de toi. Ta peau tout autour de moi, ma peau tout autour de toi.
Ça commence par moi.
Ça commence par moi.
Ça commence par moi.
Ça commence par nous.
Et de retour dans l'émission, ça commence par nous. Moi, tout de suite, hein, je laisse le micro à Charles, un nouveau venu de la team Edeni, le Zero Waste Positif, qui lui va nous faire son focus zéro déchet. Salut Charles.
Salut Julien. Avant toute chose, je me présente pour que les auditeurs ne se demandent pas si Hélène s'est faite opérer des cordes vocales. Je suis Charles, j'ai rejoint Edeni pour accélérer la diffusion de son message Zero Waste Positif au plus grand nombre. Je suis là aujourd'hui car Hélène n'était malheureusement pas disponible et nous n'allions quand même pas vous priver du message Edeni et des remarques poil à gratter pour aller plus loin de notre ambition du bien. Maintenant que les présentations sont faites, laissez-moi vous dire un mot sur l'engagement et pourquoi Edeni est entre autres une chaîne YouTube. Aujourd'hui, il y a de très bonnes nouvelles pour la démocratie et d'autres plus inquiétantes. Commençons par les plus pessimistes afin de finir sur une note positive, comme toujours. La participation est en baisse, que ce soit aux élections municipales, législatives ou bien aux européennes. Seules les présidentielles résistent avec près de 80% en 2017. Pour illustrer cette chute de la participation, les législatives sont passées de 83% à 49% entre les années 70 et 2017. Et comme on dit souvent en TP de chimie, la nature a horreur du vide. La démocratie, ou en tout cas la participation, des citoyens s'est déplacée de l'urne à YouTube. En effet, la bonne nouvelle est que l'essor d'Internet permet aux citoyens de s'exprimer de plus en plus facilement et de se faire entendre très largement avec des vidéos. Pour ce faire, des YouTubeurs diffusent des clés de lecture pour former les citoyens afin de les armer pour une démocratie saine. Il y a par exemple Ludo de la chaîne Osons Causer avec 185 000 abonnés, Hugo Décrypte avec près de 209 000 abonnés, ou bien Nina Guérino de la mairie, qui est une jeune journaliste tout juste diplômée qui a fait un tour de France pour donner la parole aux 18-30 ans sur des sujets politiques lors de la campagne présidentielle 2017. Ou encore l'excellent professeur Feuillage qui apporte un éclairage humoristique aux problématiques environnementales. Dans le même esprit, Edeni a développé sa chaîne YouTube pour apporter sa pierre à l'édifice. Edeni participe activement à cette démocratie au quotidien, car notre objectif est d'accompagner les citoyens, qu'ils soient à la maison ou au bureau, dans leur engagement pour la transition écologique. Le fait d'être zéro waste au quotidien est un acte démocratique, car je participe à la société en apportant un mode de vie positif. Notre chaîne est un moyen de communication idéal afin de former un maximum de citoyens, tout en permettant le débat, grâce aux commentaires et aux rencontres réelles des afterwork. Nous utilisons notre chaîne pour revendiquer nos positions et surtout apporter des solutions à nos concitoyens. Avoir des convictions sans les appliquer, ni les revendiquer, revient à ne pas en avoir. Si l'on revient à la genèse de la démocratie, on se rend compte que la base de cette démocratie est la liberté de dire et communiquer son opinion pour enrichir le débat. Les chaînes YouTube remplissent très bien ce rôle incontournable pour une démocratie au quotidien, mais pour conclure, j'ai envie de poser la question de... Jusqu'à combien de temps notre démocratie va faire le grand écart entre l'urne et YouTube? Je laisse la parole à Aurélie de Fluicity qui a peut-être la réponse.
Salut Aurélie, merci beaucoup Charles. Charles, toi tu es un pur produit Edeni hein, puisque tu as suivi le bootcamp.
Je suis de la première promotion du bootcamp.
Incroyable, je te remercie. Nous on se retrouve tout à l'heure pour le débrief. Et tu l'as très bien dit, on accueille tout de suite Aurélie Mussmann de Fluicity. Salut Aurélie.
Salut Julien.
Alors Fluicity, qu'est-ce que c'est?
Alors, Fluicity, c'est une start-up de ce qu'on appelle la civic tech, donc petite étymologie de ce terme qu'on entend souvent quand on parle de démocratie aujourd'hui. C'est tout cet écosystème de start-up, d'organisations qui proposent des solutions innovantes aux citoyens pour leur permettre d'exercer leur citoyenneté autrement. Et donc Fluicity, nous on est une plateforme de participation citoyenne qui vise à recréer le lien entre les élus locaux et les citoyens. Donc le constat qu'on a eu finalement, tu l'as très très bien rappelé en début d'émission, nous il y a un chiffre qu'on rappelle souvent et qui a vraiment été moteur de la création de notre start-up, c'est celui des 61%. 61% des jeunes, donc les 18-25 ans, n'ont pas été votés aux élections de 2014 et pour nous ça a été vraiment un choc. On s'est dit mais comment c'est possible que des citoyens qui ont acquis finalement très très récemment le droit de vote ne se mobilisent pas lors de finalement la première élection, enfin une des premières élections où on les sollicite. Et donc pour essayer de restaurer, empêcher cette rupture du lien, en tout cas faire en sorte d'empêcher qu'elle se creuse, on s'est dit... On a réfléchi comment faire. Et donc, on s'est dit deux choses. La première, il faut absolument agir au niveau local parce que c'est en faisant s'impliquer les citoyens sur des sujets très simples, très concrets qui se passent autour d'eux qu'on pourra leur montrer l'efficacité de leur engagement de manière très efficace. Et la deuxième chose, c'est celui des usages. Les usages ont changé avec le temps. On ne s'informe plus de la même manière. On ne s'exprime plus comme à l'époque de nos grands-parents. Aujourd'hui, on est très connecté, on est mobile. Et donc, il faut aussi trouver de nouveaux moyens, de nouveaux outils pour pas forcément révolutionner la démocratie, puisqu'on ne veut pas être en rupture avec ce qui se fait déjà, mais en tout cas apporter une complémentarité avec ce qui se fait, donc une plateforme numérique. Donc pour préciser, Fluicity c'est un peu cette synthèse, c'est essayer d'engager les citoyens au niveau local grâce à une plateforme numérique, donc se réunir les élus, les citoyens, les associations locales pour qu'ensemble ils co-construisent des projets sur leur territoire.
Concrètement, on parle de plateforme numérique, ça veut dire des apps, hein, des applications.
Applications mobiles et web. Et on web. Est présent sur les deux.
Et concrètement, qu'est-ce que ça donne? Comment ça marche?
Alors, comment ça marche? Flucity, en fait, ça permet aux citoyens de faire trois choses. La première, qui semble fondamentale, en tout cas pour nous, pour permettre une participation, enfin donner envie de participer et aussi avoir une participation de qualité, c'est permettre aux citoyens de s'informer de l'actualité locale, qu'il ait bien conscience de ce qui se fait autour de lui, parce que bien souvent quand on demande aux habitants d'une ville qu'est-ce qui se passe dans ta ville, et ils n'ont pas forcément bien conscience de ça. Et donc on permet à la mairie, mais aussi aux associations locales, de contribuer à un fil d'actualité. Qui est par ailleurs personnalisable en fonction des centres d'intérêt des citoyens. Le seul point commun, finalement, c'est véritablement que ça se passe au niveau de leur ville. La deuxième action, je dirais, que Flucity permet de faire, c'est de permettre aux citoyens de répondre à des concertations précises publiées par leurs élus. Les élus ont besoin de comprendre les attentes, les besoins de leurs citoyens. Ils ont besoin d'outils complémentaires et donc, avec Flucity, ils peuvent poster des sondages, donc c'est ni plus ni moins des questions à choix multiples, mais aussi des projets participatifs pour poser des questions ouvertes autour de thématiques particulières. Donc par exemple, ça peut être un projet d'aménagement d'une place dans la ville, qu'est-ce que vous voudriez voir comme mobilier sur cette place? Ça peut être poser une question précise sur une politique locale. Voilà.
Et le troisième?
Et le troisième, c'est de permettre aux citoyens de s'exprimer de manière très libre, très spontanée, sur les thématiques qu'ils souhaitent. Donc là, c'est d'enlever finalement toute forme de barrière. Bien sûr, nous, sur Flucity, on est très attentif à ce que l'expression soit libre, mais sous des règles classiques de liberté d'expression.
De politesse, bien sûr.
Exactement.
Mais pour que ce soit fluide.
Exactement. Et donc, en fait, on permet deux choses. Le citoyen peut s'exprimer via une messagerie privée dans laquelle il peut faire des signalements, mais aussi poser toutes les questions qu'il souhaite à sa commune. Donc, ça permet finalement de rapprocher véritablement le citoyen avec sa ville. Et l'autre moyen, c'est d'avoir un mur d'idées où là, les citoyens postent toutes les idées qu'ils souhaitent pour leur ville sur les thématiques qu'ils veulent.
Pour donner envie aux gens là, qui nous écoutent, la dernière question, c'était est-ce que vous avez déjà eu des exemples concrets dans des villes, dans des endroits où finalement Flucity s'est avéré une option payante?
Oui, parfaitement. En fait, ça fait depuis juillet 2015 qu'on existe. Aujourd'hui, on travaille avec une trentaine de villes en France et en Belgique. Et effectivement, on a des effets concrets. Donc déjà, quand on se lance avec une ville, en moyenne, au bout d'un an, on a 7% de la population qui est présente sur la plateforme. Donc c'est un très très beau chiffre. On essaie de mobiliser au maximum les citoyens, et puis on a beaucoup d'idées qui ont été concrétisées, donc je peux donner quelques exemples, par exemple
un seul pour terminer.
Un seul, on va parler de Vernon, puisque c'est la ville pilote, notre toute première ville avec laquelle on a travaillé. Plusieurs citoyens ont proposé de mettre en place des boîtes à livres dans la ville, et donc grâce à ça en fait, donc ça a été un des tout premiers projets réalisés grâce à Flucity. Les citoyens ont maintenant des boîtes à livres à Vernon. Voilà. Il y a plein d'autres exemples,
mais il y a plein d'autres choses à faire, et on en reparlera si tu veux nous tout à l'heure après pour le débrief. Je te remercie Aurélie. Pour ceux qui veulent en savoir plus, hein, quand même, je redonne le nom du site internet, c'est flui.city, et nous on vous donnera bien évidemment toutes les informations sur le groupe Facebook de Ça commence par nous. On se fait un dernier break musical et on revient juste après avec Pierre Lucier qui nous parlera du jour de la Terre. Allez.
Grosse frappe, reste là, petit, commence. Athlétique à la Tech Nine, vrai type, comment? Fret nice, un pet knife, faut que je perce avant la deadline. Neken à la 8 miles. Si t'es grave, l'eau, presse live. Raclo, si t'aimes pas le flow, t'énerve pas, reste live. Easy dans ma tech life, je compatis si t'as ma get my. Ici t'as raté live. J'peux, j'pète un fusible, S-Live. Au micro, les crocs, le physique d'un vrai slide. J'lag, j'roule au taquet comme une S-Line. Fume le paquet, t'as fait maquette comme un esclave.
Trop de sel, j'donne tout. Bloqué dans le zoo, observe. Je me représente. Je donne tout. Hey, bloqué dans le zoo, observe. Je me représente.
Fat sans tube, schlag sans thune. V'là comment j'accentue. J'cartonne et smash en stup. Gratte sans stup.
je rappe dans le tube, assume, pas de censure, je t'affure, graille dans le bus, braille sans pute, grave dans le jus, toujours à faire 400 trucs, crade, côté commun, tas de grands crus, je trace, évite les bananes, les bailles d'insultes, me balade quelques jours sur Paname et me taille dans le sud, tu braques ton chromie, passe la chronique, homie, cache ton cold quand je cause compromis, pas de son comique. Yeah. Trop de scène, je donne tout. Hey, bloqué dans le zoo. Observe, observe. Je me représente. Je donne tout. Hey, bloqué, bloqué dans le zoo. Trop de scène, trop de scène.
Ça commence par moi.
Ça commence par moi.
Ça commence par moi.
Ça commence par nous.
Et aujourd'hui, on vous parle de comment être un acteur, un citoyen, un acteur de sa ville, un acteur de sa société au quotidien. Nous accueillons tout de suite Pierre Lucier qui vient nous présenter Le Jour de la Terre. Bonjour Pierre.
Bonjour Julien.
Alors, vous, votre mission, c'est d'accompagner les personnes et les organisations à diminuer leur impact sur l'environnement.
Le Jour de la Terre, 22 avril et tous les jours.
Comment vous faites alors?
Et ça prend plusieurs formes. Donc, le Jour de la Terre, c'est multisectoriel. C'est vraiment axé sur l'action environnementale. On dit que c'est la célébration par l'action. Donc, on a distribué plus de 100 000 barils récupérateurs d'eau de pluie, de composteurs. On a planté 700 000 arbres. On fait des activités, donc des ateliers sur le gaspillage alimentaire. On fait des ateliers directs dans les entreprises sur la gestion de matières résiduelles, c'est-à-dire qu'on implante des systèmes de gestion informatique qui nous permet d'identifier les taux de valorisation de chacune des voies de collecte. Et là, je continuerai pas.
Ouais, non, mais c'est plein de choses hyper concrètes. C'est très bien, ça montre qu'il y a plein de choses différentes, c'est ça?
Oui, tout à fait. Et donc, toute l'approche, le financement du Jour de la Terre, donc l'association est faite par les grandes entreprises pour célébrer le Jour de la Terre, dans le fond, pour faire quelque chose de démocratique le 22 avril. Mais c'est toujours une approche adaptée aux besoins. À la prochaine étape, on identifie toujours la prochaine marche dans l'entreprise. Donc, qu'est-ce qui rend crédible notre démarche RSE auprès de nos parties prenantes, donc nos clients? Et donc, qu'est-ce qui inquiète nos clients? Qu'est-ce qui inquiète nos clients dès le début? On va trouver un programme, on va le mettre en place, on va le mettre en place avec l'entreprise. La petite marge, on essaye des fois que c'est de la marge soit de 50 %, mais c'est une marge de 25 % normalement, nous sert à célébrer les activités de faire quelque chose, de faire une campagne du Jour de la Terre.
Le Jour de la Terre, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de mes compatriotes qui connaissent. Ça nous vient des Américains, je crois, non?
C'est premier Jour de la Terre, 1970, essentiellement aux États-Unis, mais pour, dans le fond, qui va devenir international. On dit du Jour de la Terre que c'est la naissance du mouvement environnemental organisé. On se replace 62 VVF, qui est toujours une organisation, maintenant qui est une organisation écologiste, mais qui était une organisation de conservation de la nature. Et on va voir Greenpeace 72, qui est vraiment donc des écologistes. Donc, on traverse des conservationnistes à des écologistes. Ça fait après une conscience. Donc, la rue est mobilisée en 68 ici, aux États-Unis, depuis de 68 jusqu'à 72, ça va être très mobilisé. Il y a une photo qui va être cruciale, c'est Apollo 8, le 25 décembre 1968, 50e anniversaire qui arrive de cette photo, de la première photo de la Terre complète. On la voit dans un grand ciel noir, cette boule bleue. Et là, il y a un déversement dans la baie de San Francisco, un peu comme la Deepwater Horizon dans le golfe du Mexique, mais qui dure un mois à 100 mètres au lieu d'être à 1000 mètres. Donc, là, il va y avoir une prise de conscience. On va convertir la mobilisation de Pacifique vers une mobilisation environnementale. Va naître le premier Jour de la Terre. Après ça, 1990, internationalisation du mouvement. En France, très présent, pour des raisons un peu obscures, le mouvement français va diminuer, mais depuis 2015, depuis l'accord de Paris, vous avez le support de vos collègues québécois et qui font revivre le Jour de la Terre en France.
Ah oui, l'accent nous donnait une piste sur le support québécois, effectivement. On revient dans le présent, on revient en France. Là, maintenant, on est en train de dire qu'on a un Jour de la Terre qui arrive le 22 avril. Concrètement, les gens qui nous écoutent, qu'est-ce qu'ils font pour ce Jour de la Terre?
Ben, un, ça commence par moi. Donc, du 1er avril au 22 avril, il y aura 22 gestes de ta campagne qui vont être sur, donc, un geste par jour. On remet ça, Et il y aura à Marseille un pôle zéro déchet. Il va y avoir à Terre de Caux quelque chose sur zéro pesticide. Il va y avoir quelque chose sur l'économie circulaire à Paris. Et il va y avoir à Nancy une primeur. Je le dis ici, il va y avoir la première plante, une climatite qui va être créée au nom du jour de la Terre. Donc, et tout ça pour justement faire un pôle de Nancy de revégétalisation. Donc, et qu'on sente bien que le jour de la Terre nous appartient. Et donc, c'est des pôles qu'on comprenne que l'action commence par soi. C'est pas, donc, c'est vrai, le jour de la Terre, c'est la célébration par l'action. Et donc, j'ai déjà eu quelqu'un qui m'a dit « J'ai arrêté de fumer le jour de la Terre », mais moi, hein, c'est parfait ça. J'arrête de fumer ou en tout cas, vous faites une action, elle vous appartient.
Et ça, ça commence au niveau citoyen, ça passe au niveau des entreprises, au niveau des collectivités. Où est-ce qu'on retrouve toutes ces informations? Qu'on ait envie de créer un nouveau projet ou qu'on ait envie de participer à un projet existant, comment on fait?
Jourdelaterre.fr.
Eh ben voilà, ça donne envie. On y est presque, moi j'y serai. Et là, on a envie que ça dépote, on a envie de donner cette énergie. Merci beaucoup Pierre pour cette intervention, ça m'a donné le boost. J'ai envie d'y être à ce 22 avril. Je vous le redonne quand même, hein, pour ceux qui nous écoutent. C'est jourdelaterre.fr. Et nous, bien évidemment, on vous redonnera toutes ces informations sur le groupe Facebook de Ça commence par nous. Vous êtes toujours avec nous, hein, dans cette émission de Ça commence par nous. Et je laisse le micro tout de suite à Mélanie du média Positif One Art qui va nous partager son bon plan. Salut Mélanie.
Salut Julien, bonjour à tous. Alors moi aujourd'hui, je vais vous parler de Ma Voix. Je ne sais pas si vous connaissez Ma Voix. C'était ce mouvement citoyen qui n'était affilié à aucun parti politique. Donc il y a 2 ans, nous, One Art, on a rencontré quelques personnes qui faisaient partie de ce collectif un peu particulier et qui avaient des idées novatrices.
Et l'idée, elle est venue d'où?
Alors, Ma Voix, c'est le rassemblement de plusieurs citoyens qui se sont rendus compte, comme vous l'avez justement dit, que les gens n'allaient plus voter, que les gens votaient à défaut, votaient par tristesse, par colère ou même pour les moins pires des solutions. C'est horrible de se dire ça, mais donc c'est de cette volonté en fait de redonner de la voix aux citoyens qu'est né ce mouvement Ma Voix.
Et l'objectif du coup c'est quoi?
Alors depuis la création, Ma Voix le disait non sans agressivité que son principal objectif, je cite, était de hacker l'Assemblée nationale. Donc c'était vraiment de bouleverser les règles, de faire émerger une nouvelle méthode pour permettre justement aux idées de se confronter et de se concrétiser. Et le collectif espérait, à l'issue des élections législatives de 2017, envoyer des députés à l'Assemblée nationale qui seraient les porte-voix justement des Français et feraient entendre la voix des Français, quoi.
Et concrètement, comment ça marche? Ils sont où les patrons de Ma Voix? Il y a une hiérarchie?
Alors figure-toi qu'il n'y a aucun patron, pas du tout, il y a zéro hiérarchie. Ce sont vraiment des citoyens en fait qui se sont unis, toutes les décisions sont prises collectivement. Les personnes du collectif sont toutes volontaires et elles échangent en fait, elles discutent en ligne sur des forums et elles partent à la rencontre de leurs concitoyens partout en France. Voilà, c'est vraiment... un mouvement collectif.
Qui marche.
Qui marche, exactement, qui marche. Parce qu'en 2016, on peut peut-être rappeler cet événement qui a été marquant à Strasbourg. Il y avait 16 candidats de Ma Voix qui s'étaient présentés. Et c'est un ancien libraire au RSA, Daniel Gerber, qui a été tiré au sort avec 4,25% du suffrage. Ce qui est vraiment pas mal pour une première fois. Et donc, pour le coup, ça marche. Et puis, on se rappelle surtout de ces affiches où il y avait un miroir qui était installé dans certaines villes, où lorsqu'on se mettait en face du miroir, c'était écrit « Qui est-ce qui me représente le mieux ?» et on était face à notre propre image. Donc les gens étaient assez surpris, ils se disaient « Ah bah tiens, en fait, c'est parlant, ça marque. »
Et là, maintenant, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un est élu?
Alors, la personne, elle est tirée au sort et justement, elle va, comme je le disais, représenter les Français à l'Assemblée nationale. Et voilà, en fait, ils deviennent tous des acteurs des lois.
Et cette personne, elle arrive à l'Assemblée, elle vient de quitter son boulot, comme ça, quoi.
Pas du tout. Ils sont accompagnés, ils sont préparés. Les candidats reçoivent des formations en ligne pour réapprendre la démocratie, mieux comprendre le fonctionnement des institutions. Donc, ils n'arrivent pas comme ça, non.
Et ils dupliquent un programme? Ils doivent appliquer des consignes de vote?
Non, il n'y a aucun programme. Ce sont les citoyens qui construisent ensemble ce qu'ils désirent voir apparaître au programme. Tout le monde peut s'exprimer librement. Et Et donc voilà, c'était juste pour donner un exemple, mais les citoyens se mettent à débattre sur une loi sur la plateforme en ligne, justement. Donc s'il y a 60% des gens qui sont pour et 40% contre, ça va se refléter à l'Assemblée nationale. Il y aura 6 personnes qui seront pour et 4 qui seront contre.
Et tu disais qu'il n'y a personne, vraiment personne, qui se cache derrière ma voix.
Non, vraiment, c'est un groupe de citoyens et ils le soulignent très clairement lorsqu'on les interview, c'est qu'ils décident de donner la parole vraiment à tout un chacun.
Ouais, donc c'est important de le dire, là, les présidentielles sont passées. Est-ce qu'on doit attendre les prochaines élections présidentielles? Il y a d'autres manières de s'impliquer?
Alors pour le moment, c'est vrai que les élections sont passées, donc c'est plutôt calme. Mais je ne doute pas qu'on verra ma voix très prochainement sur les réseaux sociaux et qu'on en entendra parler.
Oui, puis ils sont même déjà en train de travailler sur les législatives.
Sur les prochaines, voilà, exactement.
Hein, sur les prochaines législatives. Merci Mélanie. Nous, on se retrouve juste après pour continuer à creuser ce sujet de la démocratie au quotidien. Allez, à tout de suite.
Vous pouvez aussi retrouver le reportage en fait sur oneart.fr.
Et bien voilà. Sûr, le reportage sur oneart.fr.
Ça commence par moi.
Ça commence par moi.
Ça commence par moi.
Ça commence par nous.
Et vous êtes bien avec nous dans l'émission Ça commence par nous. Aujourd'hui, nous parlons de comment s'impliquer dans la vie démocratique au quotidien à l'échelle du citoyen. C'est le moment du débrief que vous attendez tous. Pour commencer, moi, je voulais savoir quel avait été chez vous l'élément déclencheur pour vous donner envie d'agir au quotidien et de participer un peu à l'amélioration de notre société. Quel moment vous vous êtes dit, tiens, mais pourquoi moi aussi, je pourrais pas faire quelque chose? Ah, pas évidente hein, cette question. Harry, par exemple, vous qui vous retrouvez du côté du budget participatif, vous m'avez parlé aussi d'une start-up que vous avez créée. Quel événement a fait que vous vous êtes dit, tiens, moi aussi j'ai envie d'agir?
Y a les trois facteurs. Le premier, c'est que je pense que j'aurais pas réussi mes études sans les bourses qui m'ont permis de les financer et que je me suis très rapidement senti... pas redevable, mais reconnaissant de l'action publique qui m'avait permis de profiter de cet ascenseur social, comme on disait à l'époque, on le dit moins aujourd'hui. Et voilà, je me sentais, j'avais envie, du coup, ça m'a donné envie de m'engager dans des secteurs dont j'avais pas du tout entendu parler dans mes études, et notamment la fonction publique. Deuxième raison, c'est que j'ai eu la chance de faire un troisième cycle en Suède. Je me suis formé aux sciences politiques, non pas en France, mais en Suède, où il y avait déjà des réflexions sur le développement durable, sur la protection environnementale, d'autres manières de penser et d'autres schémas de construire le développement d'une société que j'ai eu envie de la plus théoriquement de réimporter en France, ce qui a effectivement m'a amené à contribuer à la création d'une asso. Et puis la troisième, c'est que ma formation, mon cursus initial, c'est ingénieur en sûreté nucléaire. Et donc, j'ai eu l'occasion de me confronter à des problématiques écologiques, à des problématiques de risque, notamment, et à la philosophie qui sous-tendait les solutions qu'on met en place, qui m'ont pas paru, qui m'ont paru nécessaires, mais certainement pas suffisantes. Voilà, tout ça, le soutien que m'a accordé l'État, les études en Suède, et puis mon propre background scientifique, m'ont donné cette envie d'engagement au service de la fonction publique et de l'intérêt général.
Ouais, je regarde de l'autre côté de la table. Hein. Pierre en parlait de l'overshoot day, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, cette fameuse overshoot feeling, overshoot effect, il y a quelque chose comme ça, le fait de voir la Terre et de se rendre compte qu'on est tous sur ce petit globe bleu. Est-ce que vous avez eu ce moment, ce déclic où vous vous êtes dit, peut-être, en fait, on a tous des dizaines de déclics, mais quelque chose à partager, Aurélie, je te vois faire oui de la tête.
Oui, en fait, le côté déclic, je ne l'ai jamais vraiment ressenti parce que j'ai toujours eu une espèce de volonté d'agir, je dirais, d'une manière globale sur la société. Alors oui, l'engagement au niveau de la démocratie locale est venu un peu après, mais finalement, j'ai fait des études d'affaires publiques et j'ai eu plein d'expériences associatives en lien avec le développement dans les pays en développement. Je me suis aussi engagée à Croix-Rouge. Enfin, j'ai l'impression d'avoir toujours eu une envie de m'engager d'une manière générale. Et la démocratie locale est venue assez naturellement. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'est un peu par hasard que je suis venue chez Flucity, dans le sens où j'avais simplement écrit un email super emballé, je dirais, à la fondatrice qui venait vraiment de créer la start-up il y a quelques mois. Et c'est comme ça, en fait, qu'on s'est mis à travailler ensemble, alors qu'à l'origine, c'était juste un espèce de cri du cœur, de dire « j'adore ce que tu fais, continue ». Et donc, voilà, juste pour partager ça, mais c'est vrai qu'il n'y a jamais eu de déclic en tant que tel.
Pierre, moi je réfléchissais à ça, dans tout ce que vous disiez, on voit ce fatalisme de dire « Ah, il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qu'on puisse faire, de toute manière ça ne change pas », et d'un autre côté, on voit cette explosion d'initiatives, on voit ces gens qui ont décidé de se retrousser les manches, vous le sentez vous avec le jour de la Terre?
Oui. Et moi, ça c'est donc je suis sur les deux continents, donc et au Canada et en France, et moi c'est toute l'ébullition, toute la de ce qui se fait en France. Je suis j'étais par terre. de tout ce qui se fait en France.
On est d'accord, hein, y a quand même incroyablement des choses qui se font là.
Incroyablement.
C'est... Ouais, ouais, il faut le dire, ça fait
oh,
du bien.
Oui, oh, oui, et puis c'est merci. Vrai. Et donc, c'est ça. Et donc, je pense qu'il y a des choses qui sont très avancées en plus de ça. Il y a une différence. Donc, au Canada, c'est peut-être plus le cœur. Et donc, on essaye de... Je pense que cet écho-là entre le Canada et la France va nous être, pour moi, est déjà d'une valeur incroyable. Mais aussi, on va travailler. Je pense qu'il y a du chemin à faire ensemble ici. C'est ça. Et moi, je voulais te dire pour ce qui m'a déclenché, ouais, c'est... Sûr. C'est moi, je suis connecté au fleuve Saint-Laurent. Donc, un matin, de lever de soleil sur le fleuve Saint-Laurent, magnifique, au mois de juin, on part, les amis, sur la route et on met à amener les déchets qui étaient en bord de route sur le milieu de la route. Et au bout d'un kilomètre, on monte sur un petit pont et on voit tout ce qu'on a laissé. Et c'est à ce moment-là. Donc, il y avait tellement de déchets. Les autos ne pouvaient plus aller en voie directe sur la voie publique.
Alors moi, je rebondis sur ce que vous disiez tous, parce que c'est génial, enfin, quand on entend toutes ces initiatives, on se dit c'est bien qu'il y ait autant d'outils qui sont proposés aux citoyens pour leur permettre d'agir, mais y en a qui hésitent. Je pense qu'il y a un grand nombre d'entre nous qui hésitent à franchir le pas, à utiliser l'application de Fluicity pour faire part de ses idées, à participer aux événements du Jour de la Terre, à participer au budget participatif. Donc vous, quel message auriez-vous aimé passer à nos auditeurs qui nous écoutent, qui aimeraient agir, mais qui hésitent?
Qui se sentent un peu noyés. Quoi.
Voilà, qui se sentent un peu noyés, surtout.
Mais encore une fois, ça commence par moi, puis c'est pas l'attente des autres. Donc moi, en premier, j'ai rien à dire à vos... nous, on est là. Si on peut être une inspiration, puis c'est mathématique. C'est-à-dire que si je suis seul pour la situation de la cause environnementale, ou si on est 1 million, c'est beaucoup plus facile à 1 million. Et donc, moi, je suis plus intéressant si on joint à moi que si je dis... Mais, et donc, qu'est-ce que toi, tu vas faire? C'est pas à toi. Moi, je vais faire, puis j'aurais besoin qu'ensemble, ça serait plus facile. Fait qu'il y a cette discussion, le discours aussi de regarder l'autre sur « c'est sur mes épaules, mais j'aimerais ça qu'on partage mes épaules ». Et un mouvement, c'est 15 ans. Et donc, tu sais, donc ce mouvement-là, en tout cas, nous, il faut au Canada, là, l'équipe est française. Hein, sur les 17 employés, il y a 12 Québécois qui sont nés en France. Et donc, il y a un message des Français veulent voir aller ailleurs, mais ils veulent poser des gestes, ils veulent être dans l'action. Donc, ce mouvement-là, il est à son balbutiement. Il va arriver à maturité dans une dizaine d'années.
Harry, vous voulez rebondir?
Oui, déjà sur l'échelle de temps, effectivement, tout ça s'installe dans le temps, je suis complètement d'accord. Et puis après, alors, on rencontre plein de Parisiennes et de Parisiens sur ces questions-là. On se rend compte que, d'abord, on a besoin de se parler. Le numérique, là aussi, est nécessaire, mais pas suffisant, parce qu'il y a un vrai enjeu de confiance. Vous l'avez souligné dans vos éditos respectifs, le lien se distend et on ne recrée pas le lien d'un coup de baguette magique. Les gens ont eu parfois des expériences difficiles avec d'autres services publics, avec d'autres... Et ce n'est pas parce qu'on arrive avec le budget participatif qu'on oublie le passé et qu'on fait table rase. Donc nous, l'obligation qu'on se fixe pour rétablir cette confiance, et prenant en compte que ça prend du temps, c'est la transparence. C'est-à-dire que vous allez nous proposer des idées, on va vous dire oui, on va vous dire non, mais on va toujours vous dire pourquoi. L'année dernière, on a fait 1541 messages de refus personnalisés, où on explique aux gens, et c'est posté sur notre site, et donc c'est un gros effort pour nous, ça nécessite aussi pas mal de moyens humains, mais c'est ce sur quoi on parie, en tout cas, pour recréer progressivement du lien, le terme est tout à fait juste, sachant qu'effectivement, la défiance est là, et que quand on cite budget participatif, y a plein d'associations d'idées qui vont se faire, Ville de Paris, etc., et qui peuvent emmener les gens plus vers la défiance, vers la confiance. Donc on va démontrer par nos réalisations et par cette transparence qu'on arrive à penser les choses autrement, mais... Ce que tout le monde doit accepter, c'est un peu le contrat de base, c'est que c'est un apprentissage commun. C'est-à-dire que quand la maire de Paris décide de lancer le budget participatif, on n'a pas 2 ans de recul avec des groupes de travail, etc., pour se dire comment on va faire. Elle décide qu'on va faire pour réfléchir. Tous les ans, on change, tous les ans, on évolue, nos critères bougent un petit peu, etc. Et la proposition qu'on fait, finalement, c'est aux gens, c'est d'embarquer dans cet apprentissage commun, mais c'est pas de fournir un produit fini, parfait, quoi.
Non, d'autant que l'idée, hein, c'est vraiment d'avancer ensemble. Je pense que c'est vraiment ça, l'idée de faire société. Ça sera notre mot de la fin. Juste quand même pour récapituler. Hein, et si vous nous écoutez toujours avec cette envie d'agir, je crois que le déclic, il passe effectivement par l'individu. Peut-être que ça va être de télécharger une app hein, comme Fluidcity en se disant, tiens, moi aussi, j'ai envie de changer quelque chose et de voir ce qui s'y passe. On va être informé, on va commencer à être consulté. Et puis peut-être ensuite, on va aller sortir. On va peut-être même carrément proposer nos propres projets en disant, ah, mais attends, moi, j'ai vraiment cette solution pour mon quartier, pour les gens autour de moi, pour un public accessible. Et puis derrière, recréer le lien en allant collecter des déchets au bord de la route, en allant planter des arbres avec la mairie de Paris. Voilà, il y a plein de choses à faire. Je pense vraiment que l'idée, c'est d'être bienveillant et de vouloir agir. On n'est pas parfait, mais on le fait ensemble et c'est comme ça que ça doit marcher. Moi, c'est un sujet vraiment passionnant. Ça me tenait à cœur d'en parler avec vous. Je vous remercie. On pourrait hein, malheureusement parler encore pendant des heures et des heures. À la fois, l'émission touche à sa fin. Je tenais quand même tous à vous remercier pour vos interventions. Pour rappel, nous avons donné la parole à Harry Brodage du budget participatif de Paris. On a eu Christian Proust qui a écrit le guide pour oser s'impliquer en politique. On a eu Aurélie Mussmann de Fluidcity et Pierre Lucier du Jour de la Terre. Je remercie également notre équipe de choc avec Mélanie de One Art pour son bon plan, Charles nouveau venu des Dénis pour son focus zéro déchet, Raphaël et Fabrice du côté de Rage.
Ça commence par nous!
Vous l'aurez compris, construire un monde meilleur, ça commence par nous. Alors allons-y, retroussons-nous nos manches pour tous ensemble améliorer notre société au quotidien. Bien entendu, si vous voulez réécouter ou partager cette émission, vous pourrez retrouver le podcast sur le groupe Facebook Ça commence par nous, sur rage.fr, mais aussi sur iTunes. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, on parlera de véganisme. Merci de nous avoir écoutés, je suis vraiment content d'avoir passé ce moment avec vous et je vous dis à samedi prochain, 13h. Allez, salut!